Quand des étrangers se trouvent en présence, des concessions mutuelles s'imposent pour compenser les différences de mœurs et d'éducation. Dame Jessica, sagesse d'Arrakis. Les dernières traînées de lumière verdâtre abandonnaient l'horizon lorsque Burt Smalley donna le signal du départ. Il faisait nuit quand ils atteignirent les quartiers situés à l'autre extrémité d'Issaï et la route périphérique par laquelle ils devaient rejoindre Duncan. Le ciel couvert réfléchissait les lumières de la cité sur les agglomérations de taudis vers lesquelles les conduisaient leurs guides. Ces guides ne laissaient pas d'inquiéter Lucille. Ils apparaissaient comme par magie au détour des ruelles et à l'entrée des maisons pour leur chuchoter des indications à mesure qu'ils passaient. Trop de gens étaient au courant de leur fuite et de leur proche rendez-vous. Lucille avait résorbé sa haine, mais il y avait des séquelles sous la forme d'une profonde défiance envers tous ceux qu'il rencontrait. Dissimuler cette réaction derrière le comportement distant d'une fille ludique accompagnant son client devenait de plus en plus difficile pour elle. La voie pour piétons qui longeait la route était couverte de neige sale et boueuse, projetée là surtout par le passage des véhicules de sol. Avant d'avoir fait 500 mètres, Lucille sentit qu'elle avait les pieds glacés et dut faire appel à des ressources d'énergie supplémentaires pour compenser l'afflux de sang à ses extrémités. Burt Smalley marchait en silence, le front baissé, apparemment perdu dans ses préoccupations. Mais Lucille n'était pas dupe. Elle savait qu'il entendait le moindre bruit autour d'eux et guettait le passage de chaque voiture. Lorsqu'un véhicule de sol approchait, il leur faisait quitter le chemin pour qu'il soit invisible. Les voitures, flottant sur leurs suspenseurs, passaient à toute allure en projetant de part et d'autre de leur tablier la neige sale qui allait saupoudrer les buissons du bord de la route. Burt Smalley la forçait à rester accroupie dans la neige à côté de lui jusqu'à ce qu'il se fût assuré qu'ils étaient hors de portée de vue et d'oreille. Il eût été au demeurant surprenant que les occupants des voitures aient pu les entendre, tant leur propre passage faisait siffler l'air. Ils marchaient ainsi depuis 2 heures, lorsque Burt Smalley s'arrêta enfin pour scruter le paysage qui s'étendait devant eux. Leur lieu de destination était une petite communauté de la périphérie qu'on leur avait décrite comme parfaitement sûre. Mais Lucille n'avait guère confiance. Aucun endroit sur Gameux n'était tout à fait sûr. Les lumières jaunes, réfléchies par la base des nuages un peu plus loin, permettaient de localiser l'agglomération. Pataugeant dans la gadoue, ils suivirent un tunnel qui passait sous la route périphérique et entreprirent l'ascension d'une colline au versant couvert de vergers qui paraissait étrangement dépenaillé dans la pénombre. Lucille leva les yeux. Le ciel était en train de se dégager. Gameux possédait plusieurs petites lunes, des non-vaisseaux. Certains avaient été mis en place par Teg, mais elle aperçut les traînées de nouveaux engins venus renforcer le dispositif de défense planétaire. Ils paraissaient 4 fois plus gros que la plus brillante des étoiles, et ils se déplaçaient souvent ensemble, de sorte que leur lumière diffuse était utile, mais erratique à cause de leur grande vitesse. Ils traversaient toute la largeur du ciel et s'abîmait sous l'horizon en l'espace de quelques heures. Lucille vit ainsi un chapelet d'une 12 satellites par une trouée au milieu des nuages. Elle se demandait s'il faisait bien partie du système défensif de Teg. Durant quelques instants, elle médita sur les faiblesses propres à la mentalité d'assiégé que ses défenses évoquaient. Teg avait raison sur ce point. Militairement parlant, la mobilité était la clé du succès. Mais elle doutait que cela s'applique à leur présente mobilité à pied. Il n'y avait guère d'endroit où se dissimuler rapidement sur le versant enneigé de la colline, et Lucille sentait que cela rendait Burt Smalley nerveux. Que ferait-il si quelqu'un arrivait? À gauche de l'endroit où il se trouvait, un vallon couvert de neige descendait obliquement vers l'endroit où brillaient les lumières. Ce n'était pas une route, peut-être un chemin creux. Par ici, dit Burt Smalley en les guidant vers le vallon. Il s'enfonçait dans la neige jusqu'au mollet. « J'espère qu'on peut faire confiance à ces gens, » dit Lucille. «
Ils détestent les honorés matriarches, » répondit Burt Smalley. « C'est suffisant pour moi. »«
J'espère que le Gola y est. »
Elle faisait des efforts pour réprimer sa colère, mais ne put s'empêcher d'ajouter
« Leur haine est loin d'être une caution suffisante pour moi. »
En fait, elle s'attendait au pire. mais elle était arrivée à une conclusion plutôt rassurante en ce qui concernait Burtmali. Il était comme Teg. Ni l'un ni l'autre n'aurait jamais suivi un chemin qui risquait de les faire déboucher dans un cul-de-sac. Pas s'il y avait moyen de faire autrement. Elle n'aurait pas été étonnée si on lui avait dit qu'il y avait des partisans de Burtmali cachés dans les buissons devant eux en ce moment même. Le vallon était prolongé par un chemin revêtu légèrement concave, exempt de neige grâce à un système qui la faisait fondre. Un filet d'eau coulait dans la rigole médiane. Il fallut quelques instants à Lucille pour comprendre sur quoi il marchait. Un glissmag. C'était une ancienne rampe de glissage magnétique pour le transport des marchandises et des matières premières jusqu'à une fabrique datant d'avant la dispersion. « Attention, ça va être de plus en plus en pente, » lui dit Burtmali. Ils ont taillé des marches, mais elles ne sont pas très larges. Ils arrivèrent bientôt au pied du glissmag. Il y avait là un mur décrépit, fait de briques locales montées sur une base de plastacier. La lueur des étoiles dans le ciel, maintenant à peu près dégagée, révélait le caractère rudimentaire de la maçonnerie, typique de l'époque de la Grande Famine. Le mur était couvert d'une masse enchevêtrée de plantes grimpantes et de mousses bigarrées. Il ne dissimulait qu'à moitié les fissures maladroitement bouchées avec un mortier de mauvaise qualité. Une unique rangée de fenêtres surplombait l'endroit où le glissmag débouchait au-dessus d'une plateforme envahie par les ronces et les mauvaises herbes. Trois de ces fenêtres laissaient apercevoir à l'intérieur la lueur bleutée d'une activité électrique, accompagnée d'étincelles et de faibles grésillements. « C'est une ancienne fabrique, » dit Burtmali.
« J'ai des yeux et de la mémoire, »
riposta Lucille, piquée au vif. Ce mâle balbutiant la prenait pour une idiote. Un grincement sinistre se fit entendre à quelques pas sur leur gauche. Une motte de terre et de mauvaises herbes se souleva en même temps qu'une petite porte dans un vif jaillissement de lumière jaune.
« Vite !»
Au pas de course, Burtmali la précéda parmi la végétation touffue, jusqu'au sommet de l'escalier que la porte venait de découvrir. Elle se referma aussitôt après leur passage, dans un grincement de machinerie fatiguée. Lucille se retrouva dans une large salle au plafond bas. La lumière provenait de longues rampes de brilleurs modernes fixées à des poutres massives de plastacier. Le sol était propre, mais portait des marques aux endroits où, sans doute, avaient été jadis installées des machines aujourd'hui disparues. Elle décela du coin de l'œil un mouvement à l'autre extrémité de la salle. Elle se retourna pour voir une jeune femme vêtue d'une autre version de sa robe au dragon qui s'avançait vers eux. Lucille plissa les narines. Elle sentait des relents d'acide et d'autres choses qu'elle n'aimait pas. « La fabrique appartenait au Harkonnen, » lui dit Burtmali. « J'ignore à quoi elle servait. » La jeune femme s'avança jusqu'à Lucille. Elle avait un corps souple aux mouvements élégants sous la robe qui la drapait. Un éclat intérieur irradiait de son visage, témoin de sa santé entretenue par un exercice régulier. Ses yeux verts, cependant, avaient une manière dure et glacée d'évaluer tout ce qu'il voyait.
« Ainsi, on a jugé que l'une d'entre nous n'était pas suffisante pour surveiller cet endroit, » dit-elle.
Lucille posa le bras sur celui de Burtmali pour l'empêcher de parler. Cette femme n'était pas ce qu'elle prétendait être. « Pas plus que moi. » Elle choisit soigneusement ses mots.
« Nous arrivons à nous reconnaître sans peine, heureusement. »
La jeune femme sourit.
« Je vous ai vu approcher de loin. Je n'en croyais pas mes yeux. »
Elle toisa Burtmali d'un regard hautain.
« C'était censé être un client ?»«
Et un guide, » répondit Lucille.
Elle nota la perplexité qui se peignait sur les traits de Burtmali et pria pour que celui-ci ne parle pas à tort. Cette femme était dangereuse.
« Nous n'étions pas attendus ?» demanda Burtmali.
« Ah, ça parle également !»
fit la jeune femme en émettant un rire aussi glaçant que son regard.
« Je n'aime pas qu'on me désigne de cette façon, » dit Burtmali.
« Je désigne la racaille de gameux comme il me plaît, » dit la jeune femme. « Vos préférences ne m'intéressent pas. »«
De quoi osez-vous me traiter ?»
Burtmali était fatigué et l'insulte inattendue lui faisait monter la moutarde au nez.
« Je te traite comme tu le mérites, racaille !»
C'en était trop pour Burtmali. Avant que Lucille ait pu l'arrêter, il avait poussé un grognement sourd et lancé sa main pour gifler la fille.
il ne lui effleura même pas la joue. Sous le regard fasciné de Lucille, la jeune femme esquiva aisément l'attaque, saisit au passage la manche de Burt Smalley, comme on attrape un chiffon emporté par le vent, et pirouettant à une vitesse aveuglante qui empêchait presque d'observer la grâce de l'exécution, envoya son malheureux adversaire glisser au tapis. Puis elle fléchit une jambe, prête à frapper de l'autre pied.
« Je vais le tuer !» souffla-t-elle.
Lucille, incertaine de ce qui pouvait s'ensuivre, pencha tout son corps d'un côté, évitant de justesse le pied lancé en avant, et contra au moyen d'un sabar standard du Bene Gesserit qui projeta la jeune femme en arrière, pliée en deux à l'endroit où le coup lui avait heurté l'abdomen.
« J'ignore comment vous vous appelez, mais je ne tiens pas à perdre ce guide !»
lui dit la révérende mère. La jeune femme était en train de récupérer son souffle. Elle haleta.
« Je m'appelle Murbella, très honorée matriarche. Vous me rendez honteuse en me mettant hors de combat avec un coup si lent. Pourquoi faites-vous ça? Vous aviez besoin d'une leçon? Il n'y a pas longtemps que je porte la robe, très honorée matriarche. Veuillez me pardonner, je vous remercie de cette splendide leçon, et je vous remercierai encore chaque fois que j'aurai l'occasion d'utiliser cette riposte, que je ne suis pas près d'oublier. »
Elle inclina légèrement la tête, puis se remit souplement sur ses pieds avec un sourire effronté aux lèvres. De sa voix la plus froide, Lucille lui demanda
« Savez-vous qui je suis ?»
Du coin de l'œil, elle vit que Burt Smalley se remettait lentement et péniblement debout. Il demeura à l'écart, observant les deux femmes, mais la colère lui brûlait les joues.
« D'après la manière dont vous m'avez donné cette leçon, je vois que vous êtes celle que vous êtes, très honorée matriarche. M'avez-vous pardonné ?»
Le sourire effronté avait disparu des lèvres de Murbella. Elle baissait la tête.
« Vous êtes pardonné. Un non-vaisseau va venir ?»«
C'est ce qu'on dit ici. Tout est prêt pour l'accueillir. »
Murbella regarda Burt Smalley.
« Il m'est encore utile et il est nécessaire qu'il m'accompagne, » déclara Lucille.
« C'est entendu, très honoré matriarche. Votre pardon inclut-il l'honneur de me dire votre nom ?»«
Certainement pas. »
Murbella soupira.
« Nous avons capturé le Gola. Il venait du sud, déguisé en Tleilaxu. J'étais sur le point de le conduire au lit quand vous êtes arrivé. »
Burt Smalley s'avança vers elle en boitillant. Lucille vit qu'il avait enfin reconnu le danger. Cet endroit parfaitement sûr était infesté d'ennemis. Par bonheur, ceux-ci ignoraient encore beaucoup de choses.
« Le Gola n'est pas blessé ?» demanda Burt Smalley.
« Tiens, ça parle encore !»
fit Murbella.
« Comme c'est drôle !»
« Vous ne conduirez pas ce Gola dans votre lit, » lui dit Lucille. « C'est moi qui dois le prendre spécialement en charge. »«
À la guerre comme à la guerre, très honoré matriarche. C'est moi qui l'ai eu la première, et il est déjà à moitié subjugué. »
Elle émit un nouveau rire, avec une insouciance cruelle qui causa un choc à Lucille.
« Par ici, » ajouta Murbella. « Il y a un endroit d'où vous pourrez tout voir. »